Le développement de l'architecture de l'information accompagne l'élargissement et la complexité de l'architecture technique du numérique. En simplifiant beaucoup, on peut distinguer trois moments dans cette architecture technique. Au tournant des années 60-70, avec la popularisation de l'ordinateur personnel, le Personal Computer, PC, une architecture client-serveur s'est imposée, où les ordinateurs étaient connectés entre eux avec des fonctions différenciées pour chacun sur des réseaux spécialisés. Le web est arrivé dans le courant des années 90 selon un protocole où toutes les machines étaient équivalentes, indifféremment client ou serveur, et communiquaient par un réseau unique, Internet, le réseau des réseaux. Aujourd'hui, dans la seconde décennie du second millénaire, nous sommes entrés dans la généralisation d'une troisième architecture technique, celle du nuage ou du cloud, où les différents points du réseau sont de moins en moins équivalents, d'énormes centres de calcul et d'archivage de données sont reliés à nos ordinateurs personnels, eux-mêmes de plus en plus mobiles, et nous leur confions de plus en plus le soin de gérer nos informations. La maturation de l'architecture de l'information a accompagné ces étapes selon une vitesse que j'ai représentée de façon très arbitraire par cette courbe qui n'a simplement pour ambition que d'illustrer le développement et l'élargissement de ces méthodes. Nous distinguerons quatre moments importants de cette histoire. La fondation du PARC, le Palo Alto Research Center de Xerox, initiateur de très nombreuses innovations dans les interfaces homme-machine et notamment du WYSIWYG, What You See is What You Get, la capacité de voir directement à l'écran les informations selon la forme qu'elles auront pour l'utilisateur. Ensuite, les réflexions de Richard Wurman sur l'anxiété générée par le trop-plein d'informations. Puis la publication du livre connu sous le diminutif de Polar Bear de Lou Rosenberg et Peter Morville sur l'architecture d'information pour le web. Et enfin, celle du livre d'Andrea Resmini et Luca Rossati sur l'information omniprésente. En 1970, Xerox ouvre un centre de recherche sous une forme à l'époque révolutionnaire. Les chercheurs sont libres, ils n'ont pas de consignes précises, mais une mission, proposer des innovations à leur maison mère qui se nomme elle-même The Document Company. Pour la première fois, le terme d'architecte de l'information est proposé. Le Palo Alto Research Center, le PARC, est à l'origine d'un très grand nombre d'inventions à l'époque révolutionnaire, mais qui nous sont aujourd'hui tout à fait familières, comme les interfaces graphiques, le WYSIWYG, les icônes qui ont été reprises par Apple, mais aussi l'imprimante laser, des langages de programmation, l'informatique ubiquitaire, etc. Les intéressés par l'histoire étonnante du parc pourront visionner avec profit cette vidéo accessible par l'URL indiquée sur la diapositive. Richard Wurman est un architecte. Il est aussi très connu comme le fondateur des conférences TED, accessibles dans toutes les langues sur le web. Wurman était préoccupé par l'explosion de l'information et le malaise qu'elle peut engendrer, un phénomène qu'il nommait Information Anxiety, et sur lequel il a publié un livre qui a reçu un grand écho en 1990, en 1989. Reprenant et précisant en 1996 ses idées publiées en 1975 dans un article, il présente l'architecture de l'information comme la science de l'organisation de l'information. Pour lui, l'architecte de l'information est celui qui crée une structure pour l'information permettant aux autres d'y trouver leur chemin personnel vers la connaissance. Architecte et graphiste, sa conception est très influencée par son domaine d'origine, le design graphique. Mais l'architecture de l'information, telle qu'on l'entend aujourd'hui, ne démarre vraiment comme un mouvement et une expertise originale qu'avec le web dans les années 90. Un livre dues à Lou Rosenfeld et Peter Morville, lance le départ. Très célèbre outre-Atlantique, il est connu par le nom de l'animal présenté sur sa couverture, un ours polaire, The Polar Bear. Écrit par des auteurs formés dans une école de bibliothécaires, le livre est à la fois un plaidoyer pour une approche nouvelle de l'information, désormais numérique, et un manuel pratique pour l'appliquer. Son succès est immédiat et il ne s'est pas démenti jusqu'ici. En 2015, la quatrième édition est publiée. La troisième édition a été traduite en français en 2007. Elle est depuis longtemps épuisée et sans suite. À partir du Polar Bear, tout s'accélère. En 2000, le premier congrès sur l'architecture de l'information est ouvert avec l'appui de l'influente association, l'American Association for Information Science and Technology. 2002 est une année particulièrement fertile. C'est l'année de la fondation de l'association professionnelle Information Architecture Institute, qui est le principal lieu d'échange et d'information des professionnels. Plusieurs livres sont publiés la même année. En plus de la seconde édition du Polar Bear, on trouve les livres de Christina Vokutk, d'Earl Morrow et surtout celui de Jesse James Garrett, The Element of User Experience, et aussi la première revue consacrée au domaine et fondée cette année-là, Boxes and Arrows. Dès lors, le mouvement est lancé et ne va pas s'arrêter. Un bon marqueur de ce succès est le nombre de formations ouvertes, dont la quasi-totalité se trouve en Amérique du Nord et quelques-uns dans les pays anglo-saxons. Le Web 2, puis la popularisation des technologies mobiles, montrent combien la notion d'architecture de l'information est pertinente pour résoudre les problèmes qui se posent à nous dans ce monde où l'information est devenue ubiquitaire, produite et accessible de partout et par tous. Les architectes de l'information se sont emparés avec gourmandise de cette nouvelle donne, comme le montrent ces quelques titres de livres, soulignant tout particulièrement celui d'Andrea Resmini et Luca Rossati, Pervasive Information Architecture. Il suffit de penser au web des données et demain au web des objets ou encore aux smart cities pour être certain que l'architecture de l'information a encore beaucoup à apporter pour rendre notre espace informationnel vivable.